tremendous amount about French society and race and racial stratification in France. But I do know something about it in the United States, and what I do know about France is that, like the United States, it's an incredibly racist society towards non-white people. The United States obviously is very similar. I've also learned a bit about the French left, talking to people here, and it seems like the United States left often has, the French left has a problem with racism. So, when you have on the right, Marine Le Pen saying, Muslims praying in the streets, she wants to bring in the army, or saying that Muslims in the streets remind her of occupation, right? Obviously very charged in France. And then you have Jean-Luc Mélenchon on the left saying that when he sees Muslims praying in the street, it makes him think about the riot police, or one option he thinks about. There's obviously a convergence between right and left. It's very problematic, and that needs to be addressed.
Donc, je remercie tout le monde pour la possibilité de faire cette conférence, et je m'excuse en avance que je suis pas très au courant des réalités françaises sur les questions de race, de racisme, de stratification raciale. Mais ce que je sais, c'est que quand même, la France, comme les États-Unis, est une société profondément raciste. Et ce que j'ai appris sur la gauche française ces derniers jours et ses rapports avec les questions raciales, est que comme aux États-Unis, elle a un vrai problème, cette gauche, avec la question raciale. Juste pour prendre deux exemples, le fait qu'il y ait une convergence objective entre Marine Le Pen à l'extrême droite, qui dit que quand elle voit des musulmans qui prient dans les rues, ça rappelle l'occupation allemande, et de l'autre côté de la gamme Jean-Luc Mélenchon, qui dit que quand il voit la même chose, ça le fait penser au CRS. Montre qu'il y a une vraie convergence objective et que c'est un problème profondément réel.
So 100 years ago in the United States, there was in many ways a very similar situation. There was a very large socialist party, very important, containing most of the radical forces in the United States at that time, that was also extremely racist, that really adjusted itself to the racism of American society. And just a word on what racism in the United States looked like, about 100 years ago, and for the first half of the 20th century, more or less. And at that time, African Americans in the United States lived overwhelmingly in the South and were agricultural workers. They were responsible for harvesting crops, things like that, and they lived in a social order that was based on terrorism, that was based on racial terrorism against black people, to keep them as low-paid workers, responsible for bringing in the crops, keep them from leaving. Anything. Keep them very, very disciplined. Lynching was, one of the most prominent methods of this. Hanging people until they died. And this was often rationalized as a punishment for rape, for particularly black men raping white women. This was clearly a lie. I mean, about a third of the people who were lynched were actually black women. And most of the time, what actually happened was there would be a business dispute between like a black man who's a farmer and the merchant who's buying his crop. The black man would say, "I'm not. You're giving me too low of a price. You're cheating me." And the man in response, the white man in response, would whip up a lynch mob. This is what racism looked like in the United States in the first half of the 20th century. An agricultural order that was based on terrorism against black people.
Donc, je voudrais commencer avec le Parti socialiste qui existait au début du 20e siècle aux États-Unis, qui était un parti très important, très grand. Mais qui était un parti aussi profondément raciste. Pour juste faire une parenthèse sur la réalité du racisme aux États-Unis à cette période-là, il faut se rappeler que la majorité de la population afro-américaine vivait dans le Sud et la plupart étaient des ouvriers agricoles. Et donc l'ordre social qui régnait dans le Sud des États-Unis était basé sur... dire simplement la terreur raciale comme une forme de contrôle social de ces travailleurs. Une des facettes de cette terreur, une des facettes les plus criantes de cette terreur raciale était bien, bien, bien sûr la pratique du lynchage, dans le sens strict du mot. Lynchage qui était souvent rationalisé ou expliqué comme la réaction, comme une forme de justice populaire par rapport à des viols de femmes blanches par des hommes noirs, ce qui était en général complètement faux bientôt. Bien sûr, il faut se rappeler par exemple que plus ou moins un tiers des victimes du lynchage étaient des femmes noires, pas des soi-disant violeurs noirs, et que à la base de ces lynchages étaient souvent des conflits économiques, des conflits commerciaux, par exemple entre des noirs et des commerçants, des disputes sur des prix de matériaux, et des disputes dans lesquelles ces commerçants faisaient rameuter des lynch mobs, des groupes de lynchage, et c'est comme ça que ces lynchages se produisaient.
And the Socialist Party, in many places and many times, completely capitulated to this racism, and did very little to fight it. Just one illustration of this. Victor Berger, one of the most important leaders of the Socialist Party, one of the founders of the American Socialist Party, was a raging racist. Here's a quote from him talking about lynching. He says, "The Socialist Party points out the fact that nothing less than the abolition of the capitalist system and the substitution of the socialist system can provide the conditions under which hunger maniacs, kleptomaniacs, sexual maniacs, and now lynchable human degenerates will cease to be begotten or produced." So here, Berger is saying, yes, yeah, socialism isn't going to have lynching, but the reason socialism isn't going to have lynching is because the people who basically deserve to be lynched aren't going to be there anymore. That's what Berger is saying, right? He's completely accepting all the logic that the people who are being lynched actually do deserve to be lynched, and doing nothing to fight against it.
Donc le Parti socialiste américain à cette période, souvent et dans plusieurs endroits, a capitulé complètement par rapport à ce racisme et n'a rien fait pour le combattre. Pire, certains dirigeants de ce parti, comme Victor Berger, qui était un des fondateurs, étaient tout simplement des racistes explicites. Et là, on va citer une citation de Victor Berger sur la question du lynchage, où il dit, le Parti socialiste souligne le fait que rien de moins que l'abolition du système capitaliste et sa substitution par un système socialiste pourrait créer les conditions sous lesquelles les fous de la faim, les kleptomanes, les pervers sexuels, et maintenant, les dégénérés humains lynchables vont cesser d'exister ou d'être produits. Donc, pas du tout une critique du lynchage en tant que tel, mais un argument comme quoi le socialisme allait abolir le lynchage, tout simplement parce que les victimes, qui étaient tout à fait des victimes légitimes du lynchage, n'allaient plus être produits, reproduits, exister.
However, at the same time in the United States, in the first half of the 20th century, one of the most important fights against black oppression was led by the Communist Party, a different Marxist group. So what I want to do in this talk is give some sense of how I think the Communist Party was able to overcome the Socialist Party's legacy of racism and what lessons that has for leftists today who are trying to confront racism and capitalism.
Mais au contrepoint avec ce racisme très profondément ancré dans le Parti socialiste, il faut souligner aussi le fait que un peu plus tard, le Parti communiste américain a joué un rôle d'avant-garde dans les luttes contre le racisme. Et donc, je voudrais parler un peu du rôle que le Parti communiste a joué dans les luttes contre le racisme pour surmonter cet héritage terrible du Parti socialiste et les leçons qu'on peut en tirer aujourd'hui. Que peuvent tirer aujourd'hui les militants antiracistes qui luttent contre le système de racisme.
All right, so to start off talking a little about the Socialist Party, as I said, was very large and very heterogeneous. It contained a number of different currents. And while, on the whole, it failed to lead the struggle against racism that, that it should have, there were people and currents within it who were anti-racist and who did have something real to contribute. So I want to talk about them and also kind of talk about why they didn't succeed. To understand the Socialist Party, you have to understand that there are two main wings, a left wing and a right wing. The key divide between the two right wings was how they related to the working class, to like working class struggle. The right wing oriented on existing craft unions, unions that were very narrow in their outlook and represented one kind of worker. And in the U.S. in the early 20th century, this meant almost always all white unions who tried to keep wages up by keeping black people out of the jobs. And the right wing of the Socialist Party oriented on these kinds of unions. The left wing oriented on industrial unions, unions that sought to organize all workers in a given industry in one union together. And while industrial unions certainly were often very racist, on the whole, they were much more open to organizing black workers and to challenging racism. And so that divide between left and right shaped how the Socialist Party grappled with the question of race.
Donc, pour revenir au Parti socialiste, il faut se rappeler que le Parti socialiste était un parti très grand, très hétérogène, avec beaucoup de courants politiques dedans, et qu'il contenait, bien sûr, il y avait beaucoup de racisme, mais il contenait aussi des courants des individus qui étaient convaincus sur la question de l'antiracisme. Donc, je voudrais parler de ça et parler un peu des limites aussi de ces courants, de ces individus. Donc, il faut se rappeler que le Parti socialiste était surtout divisé entre deux ailes, une aile de gauche, une aile de droite, que l'aile de que la division, le clivage entre ces deux ailes était sur la question du rapport à la classe ouvrière américaine. L'aile droite avait sa cible, sa base était surtout les syndicats de métiers, les syndicats corporatistes, qui menaient des luttes économiques très étriquées et souvent essayaient de maintenir le niveau de leur salaire en excluant, parce que c'était essentiellement des syndicats complètement blanches, qui n'admettaient pas des adhérents noirs. Donc, c'était des syndicats qui essayaient de maintenir le niveau des salaires en excluant les travailleurs noirs. L'aile gauche prenait plutôt un syndicalisme industriel, dans lequel tous les travailleurs dans une même industrie seraient dans le même syndicat. Donc, ces syndicats industriels pouvaient aussi être racistes, mais en général, on peut dire que ces syndicats avaient tendance à être beaucoup plus ouverts à des travailleurs noirs et donc créer des bases pour un syndicalisme interracial.
Now, in both wings of the Socialist Party, racists were common. The left wing, even though it oriented toward unions that were generally better, also contained its fair share of racists, to be sure. And Victor Berger was on the right. He's very representative of the kind of racists you would find there. In general, however, the most consistent anti-racists in the party tended to be on the left. So the people who were actual anti-racists tended to be on the left more than on the right. Despite this, though, at the party's founding in 1901, it actually passed a resolution against racism, calling on black workers to join the party and condemning the racism that they faced. And the resolution was put forward by three black Socialist Party members. And the fact that it passed is significant because in general, in American society in 1901, there are practically no institutions in which black and white people, that black and white people were both in, or practically no interracial institutions. So the fact that a majority white party passes a resolution condemning racism that is put forward by black members is itself a significant fact in the history of American socialism, even if the party ultimately failed to make good on that resolution.
Donc, comme je vous ai dit, le clivage entre gauche et droite ne se focalisait pas sur la question de race. Donc, il y avait des racistes des deux côtés, il y avait des racistes de l'aile gauche et des racistes de l'aile droite. Mais on peut dire qu'en général, ceux qui étaient les antiracistes les plus convaincus tendaient de venir de l'aile gauche. On peut dire aussi que il faut se rappeler qu'à la fondation du Parti socialiste en 1901, le parti a passé une résolution qui condamnait le racisme, qui appelait aux travailleurs noirs d'adhérer au parti. Et c'était une résolution qui était proposée par trois membres afro-américains du parti. C'était peut-être une résolution assez vide dans la réalité, parce que le parti n'a pas, en général, appuyé et actualisé cette résolution dans la pratique. Mais c'est quand même symboliquement important, parce que si on se rappelle qu'en 1901, il n'y avait quasiment aucune institution aux États-Unis qui était interraciale, qui n'était pas ségrégée. Et donc le fait qu'un parti qui était très largement un parti blanc puisse passer une résolution comme ça n'est pas complètement anodin.
Now, some people in the party tried to follow up on this resolution in various ways. So Eugene Debs, who was the party's candidate for president many times, the most important, probably the most important figure in the party, who was a white man, said wrote on an article called The Negro and the Class Struggle that is a contradictory article in many ways. On the one hand, in it, he says the Socialist Party has nothing special to offer the Negro, which is, you know, as an orientation on struggle is completely insufficient, obviously, right? White workers do not face racism, black workers do. For the Socialist Party to organize the working class, it has to have something special to offer black workers, fight against racism. But he also said in this, on the one hand, there's a failure of a strategic orientation there. On the other hand, in the same piece, he said, the whole world is under obligation to the Negro, and that the white heel is still upon the black neck is simply proof that the world is not yet civilized. So at the same time that there is, a failure to orient the party on the fight against racism, there's a recognition of the reality of racism, of the brutality of racism. And in the article, he shows that he has a very good understanding of even the psychological dynamics of the way that white workers could feel they were better than black workers, even if their situations could sometimes be somewhat quite similar.
Donc, il y avait des gens, effectivement, dans le Parti socialiste qui ont essayé de mettre en pratique cette résolution antiraciste. On peut citer le cas de Eugene Debs, qui était le candidat présidentiel dans plusieurs élections du parti, qui était sans doute le personnage le plus connu du Parti socialiste américain, qui était un candidat blanc. Il a écrit un article classique, une espèce d'article de référence qui s'appelle « Le nègre et la question de la lutte de classe », dans lequel, qui est un article fondamentalement contradictoire, parce que d'un côté, il dit explicitement le Parti socialiste n'a rien de particulier à offrir aux travailleurs noirs, c'est-à-dire il n'y a pas une reconnaissance de la spécificité du racisme, l'expérience du racisme pour les travailleurs noirs, et donc un manque total d'orientation stratégique envers les travailleurs noirs et la centralité de la lutte antiraciste pour cela. De l'autre côté, dans cette même article, Eugene Debs condamne très vigoureusement le racisme. Il dit que tant que le pied du blanc sera sur le cou du noir, ce sera la preuve que le monde est complètement non civilisé. Et il montre même une compréhension assez fine des dynamiques psychologiques du racisme, c'est-à-dire les moyens par lesquels le racisme peut donner un sentiment aux travailleurs blancs qui, dans ses conditions économiques, peut-être avoir une condition assez semblable à son collègue noir, mais le racisme peut lui donner un sentiment de supériorité. Donc on voit dans ce même article ces deux aspects, un refus de prendre en compte la question stratégique du racisme, mais une reconnaissance et une condamnation du racisme dans tous ses effets.
There were also black socialists in the party, and the most important of these was Hubert Harrison. Hubert Harrison was from the island of St. Croix and immigrated to the United States in the early 20th century, and was famed for the lectures that he would give in street corners in Harlem, where hundreds of people would come listen to him on whatever topic. He was, widely regarded as the best speaker in the city. Henry Miller, who has some association with this city, said that Harrison was his idol, and it was at his feet that he, that he learned and that he worshipped. Harrison was in the Socialist Party from the years around 1911 or so, 1915. And in that time, Harrison wrote a number of articles and pioneered an approach of the Socialist Party that the party as a whole never took up, but still, I think, had some very significant lessons in it. Harrison first wrote a series of articles in which he talked about, they were called The Negro and Socialism, in which he talked about the history of blacks in the United States and laid out like a Marxist history of slavery and then the end of slavery, the rise of the Jim Crow system, all of that. And also in those articles, he argued for an approach that the Socialist Party should take, because he argued that so long as racism is dividing the working class, it is impossible for the working class to unite around its socialist goals. And in that context, the Socialist Party has to carry out a war on racism, essentially. It has to take up racism as a central focus in order to break down that division.
Donc un autre cas, ce serait le cas de Hubert Harrison, ou Hubert Harrison, pour faire à la française, donc, un membre noir du Parti socialiste, d'origine de l'île de Sainte-Croix, mais qui est arrivé aux États-Unis et qui était un militant très connu, très populaire, qui faisait des discours dans la rue à Harlem, qui attirait des centaines de personnes. Il était tellement respecté que même l'écrivain Henry Miller disait que c'était son idole personnelle et que c'est au pied de Harrison qu'il a tout appris. Donc Harrison était membre du Parti socialiste entre 1911 et 1915. Et il a écrit une série d'articles qui s'appelait « Le nègre et le socialisme », où il développe une histoire marxiste du racisme aux États-Unis, commençant avec la question de l'esclavage et le remplacement de l'esclavage par le système de ségrégation Jim Crow à la fin du XIXe siècle, et dans lequel aussi il met en avant stratégiquement la question du racisme, parce que pour Harrison, tant que le racisme divisait la classe ouvrière, cette classe ouvrière serait complètement impuissante dans son rôle pour atteindre le socialisme. Et donc, le Parti socialiste, d'après Harrison, devait prendre en compte cette question et donc déclarer une guerre contre le racisme, mettre la lutte contre le racisme au centre de son activité.
Harrison was also a supporter of the left in the party. He was a supporter of a class struggle unionism, not a kind of narrow conservative unionism. And in the party, this led to a number of conflicts. Around 1912, there was a major factional struggle in the Socialist Party in which a number of key left-wing figures were essentially pushed out of the party. And Harrison was one of them. Now, Harrison's leaving the party was not just a matter of his orientation with or his affiliation with the left. It was also a matter of race. In New York, Harrison was being paid less than other Socialist Party speakers, even though he was widely acknowledged as the best speaker in the party. And Harrison, you know, obviously resented this and attempted to change it. And when the party refused to, that in combination with the attacks that were being carried out on him as someone on the left and being carried out on his allies in the party, he left the party in disgust.
Donc Harrison était affilié à l'aile gauche du parti, une aile gauche qui prenait donc le syndicalisme de classe, de lutte de classe contre le syndicalisme de métiers corporatistes, etc. Et donc, en 1912, il y a eu une grosse lutte de fractions dans le Parti socialiste entre gauche et droite qui a mené à l'exclusion de plusieurs dirigeants de l'aile gauche, y compris Hubert Harrison. Donc, Hubert Harrison, en fait, il a pas été exclu, il a démissionné, et en partie à cause de cette lutte entre gauche et droite, mais aussi pour des raisons raciales. C'est-à-dire que Hubert Harrison était probablement un des orateurs du Parti socialiste les plus influents, les plus populaires, mais à New York. Mais, par exemple, il recevait un salaire qui était bien moindre que les orateurs blancs. Donc, il est parti complètement dégoûté en claquant la porte.
And the reason that people like Harrison, and Harrison wasn't alone, there were actually a number of black preachers at the time in the party across the country, places like Oklahoma and California, quite widespread, and Harrison was not even the only like important black intellectual in the party in New York. But the reason that he and people like him failed to orient the party on an actual anti-racist course is that the majority of the party, the right wing of the party remained oriented on the craft unions, on the American Federation of Labor, the main kind of union group in the United States, which was completely unwilling to challenge racism in any form, and who was, you know, an active perpetrator of racism by keeping blacks out of out of the unions and out of many, many good jobs. So a consistent anti-racist strategy on the part of the American Socialist Party at this point would have had to mean opposing, you know, a lot of the main unions in the United States. And people in the Socialist Party were unwilling to do that, even though there were some alternative unions that they could have organized around, like the Industrial Workers of the World, which was, you know, a large anarchist industrial union. People in the Socialist Party, even the left of the party, was unwilling to break with the right wing of the party that prevented them from carrying out any kind of anti-racist struggle. And this meant that even though you had, you know, individuals like Harrison in the party who were, you know, actually brilliant in their contributions to theorizing anti-racist struggle, the ability of that to translate into anti-racist practice was quite limited.
Donc Harrison n'était pas le seul orateur noir important au Parti socialiste américain. Il y en avait beaucoup d'autres, par exemple dans les États de Oklahoma et Californie. Et il y avait aussi d'autres intellectuels noirs, par exemple à New York. Mais la raison principale pour laquelle ces individus et ces courants n'ont pas pu changer la ligne du Parti socialiste américain sur la question du racisme était que la droite du parti, qui avait une orientation vers le syndicalisme de métier, donc les syndicats qui étaient regroupés autour du American Federation of Labor, le AFL, donc des syndicats qui étaient basés eux-mêmes sur non seulement un refus de confronter le racisme, mais qui étaient aussi des agents qui activement ségréguer le travail. Donc cette droite avait cette orientation-là et la gauche, malgré le fait qu'il y avait d'autres syndicats potentiels, le syndicalisme révolutionnaire par exemple du Industrial Workers of the World, la gauche ne pouvait pas créer une rupture avec cette orientation dominante, hégémonique dans le Parti socialiste. Parce qu'effectivement, prendre en compte la question du racisme comme question stratégique centrale aurait amené une conséquence majeure, c'est-à-dire la rupture avec tous les grands syndicats autour du AFL. Et ça, c'était pour ces militants-là quelque chose d'impensable.
Now, the Communist Party comes out of the Socialist Party. It comes out of a split with the Socialist Party in 1919. The Communist Party as a left-wing split from the Socialist Party about anti-war and support for the Bolshevik Revolution. Initially, the CP is largely a party of European immigrants, most of whom don't even speak English and don't really understand very much about what happens in the United States at all. There's very little focus in the early years of the CP on the race question. However, the CP manages to recruit a group of black intellectuals called the African Blood Brotherhood, who are a group that advocated armed self-defense against lynching and racist violence and Pan-Africanism in general, a really, really dynamic group who would go on to become the key cadre of the group, of the Communist Party, the key black cadre that was responsible for a lot of their later success in organizing black workers.
Donc, le Parti communiste avait ses racines dans le Parti socialiste. C'était une scission de gauche du Parti socialiste en 1919. Autour de la question essentiellement de la guerre et le soutien à la révolution bolchevique. Au début du Parti communiste américain, c'était essentiellement formé d'immigrés d'origine européenne, souvent des immigrés qui ne parlaient pas anglais. Comme vous pouvez voir peut-être si vous avez vu le film Reds avec Warren Beatty. Il y a toute une partie sur le débat, est-ce que les journaux du Parti communiste américain devraient être en anglais? C'est une lutte qu'il fallait mener. Par ce biais-là, la question raciale n'était pas centrale au début du Parti communiste américain. Mais le Parti communiste a recruté assez tôt un groupe d'intellectuels noirs autour d'un groupe qui s'appelait le African Blood Brotherhood. Et ces intellectuels qui prenaient l'autodéfense armée contre le lynchage, par exemple, dans le Sud, qui prenaient une forme de panafricanisme, étaient un groupe très dynamique et qui a créé en fait le cœur des cadres noirs du Parti communiste pour les années à suivre.
as a result of recruiting the African Blood Brotherhood, and as a result of debates within the Communist Party and in the World Communist Movement as a whole that are far too arcane to get into here, the Communist Party comes out at the end of the 1920s with a solid orientation against racism in the United States and a prioritization of anti-racist struggle as absolutely central to any effort to build class struggle in the United States. Give a sense of some of the accomplishments of this. It goes from being a party that's overwhelmingly European immigrants to a party that's about 15% black at its height, which is about the percent of the U.S. population that's black. And in cities like Chicago and New York, it's even higher. And, in the Harlem section of the Communist Party in the 1930s, which has hundreds and hundreds of members, is an overwhelmingly black working class organization. Literally every important black cultural figure, with one exception that I can think of, in the 1930s is associated with the Communist Party or the left in some way. Ralph Ellison, Richard Wright, the great black novelist, Gwendolyn Brooks, the poet, Billie Holiday, the jazz singer, Duke Ellington, all of these people had an association with the Communist Party. Now, aside from Ellison and Wright, most of them were never members, but they were participants in the party's organizations. They contributed to the party, and in the case of Billie Holiday, even actually followed the party's line on World War II quite closely and changed when the party did. In some interesting ways.
Donc, la combinaison de ce groupe autour du African Black Brotherhood et les débats entre le Parti communiste américain et le Comintern qui prenait une orientation beaucoup plus ferme contre le racisme dans le Parti américain, combinaison de ce processus et de ces débats a mené à une situation à la fin des années 20 où le Parti communiste avait une théorie antiraciste beaucoup plus solide. À cette période, à la fin des années 20, 15% des adhérents étaient des Afro-Américains, ce qui est plus ou moins la proportion de la population générale. Et dans certains quartiers, dans certaines villes, c'était bien sûr une majorité écrasante de membres Afro-Américains. Harlem, pendant les années 30, Harlem qui était une section de plusieurs centaines de militants. Et au-delà de ça, toute la gamme de figures culturelles, écrivains, chanteurs, musiciens, etc., afro-américains, sauf avec peut-être une exception, étaient associés de près ou de loin au Parti communiste américain. Donc on peut citer, bien sûr, Ralph Ellison et Richard Wright, qui étaient des membres du parti, both members, Wright and Ellison. Et d'autres figures encore plus connues, Billie Holiday, Duke Ellington et d'autres, qui n'étaient pas des membres, mais qui étaient associés, même de très près. Par exemple, Billie Holiday a même suivi de façon très disciplinée la ligne fluctuante et étrange du Parti communiste sur la Deuxième Guerre mondiale, entre le pacte germano-soviétique et la déclaration de guerre contre l'Allemagne.
All right, and just a final kind of summing up of what the CP accomplished here. Bayard Rustin, who is probably the greatest black organizer in the United States in the 20th century, the central strategist of the American Civil Rights Movement, joined the Communist Party when he was young and left quite soon, but learned a lot in the years he was in and would often reference them in his later kind of thinking about organizing. He said this of his years in the party: "I discovered at City College during the Depression that when Tom Mooney, who was a union leader who was being framed for murder, was in trouble, it was the communists who came to his assistance. When it was the Scottsboro Boys, it was the communists. I'll get to the Scottsboro Boys in a second. When it came to speaking out against Jim Crow, it was the communists. Every black who got into trouble, the communists made a great deal of fuss about it. So I got involved in the Young Communist League."
Donc, un autre indice de l'influence du Parti communiste dans la population afro-américaine, donc un autre exemple, c'est Bayard Rustin, que vous connaissez sans doute comme le stratège du mouvement du droit civique après la Deuxième Guerre mondiale, qui était brièvement membre du Parti communiste, mais qui a beaucoup appris dans cette période-là et qui en a parlé. Voici une citation de Rustin. Il dit que quand il était au City College, pendant la Dépression, quand il y avait un syndicaliste harcelé par le patronat, donc le cas de syndicalistes qui s'appelait Tom Mooney, c'était les communistes qui venaient à son aide. Quand c'était le scandale des Scottsboro Boys, sur lequel on va revenir, c'était le communiste qui les soutenait. Quand c'était une question de dénoncer le système de Jim Crow, c'était le communiste qui était en première ligne. Chaque fois qu'un noir avait des problèmes, les communistes ont fait beaucoup de bruit autour de ça. Donc, j'ai adhéré à la jeunesse communiste.
All right, so obviously the Communist Party managed to change quite a bit from its heritage in the Socialist Party into the mid-1930s. There were three key areas of work that the Communist Party participated in that allowed it to make this change. And these were the unemployed movement, the movement of unemployed people, the Scottsboro Boys case, and its work in the unions. And I'll go through these a little quicker than I had planned. So unemployment in the United States obviously skyrockets in 1929 with the onset of the Great Depression. And actually one of the first kind of successful areas in which working people managed to fight back was in unemployed, was in the unemployed leagues. Probably because at this point unemployed people had so little to lose that radical action of this sort was as good of an option as any. And the Communist Party moved very quickly to start organizing unemployed people. And it set from the highest levels of the party a major priority to organize black and white unemployed people together. Organizing black unemployed workers at this time, again, a major departure for American radicalism. But with the party, when the party started organizing, what it would do is it would take large groups of unemployed people and kind of march en masse down to the relief office and demand higher payments, right? Higher payments of welfare and unemployment and all of that kind of thing. And they were very often successful. What they would do, when they would organize these people, a lot of times black women would be some of the lead organizers. And in this way, black women started becoming some of the most important kind of lower cadres of the party, some of the main organizers who would lead this down. And they were often, again, quite successful in securing increases in welfare.
Donc, il y a trois aspects sur lesquels je vais m'attarder travail du Parti communiste américain. Le premier était la question de la lutte des chômeurs. Donc, évidemment, avec la dépression, il y avait un chômage de masse extrêmement impressionnant aux États-Unis. Et le Parti communiste a décidé d'essayer d'organiser ces chômeurs dans des ligues de chômeurs. Et de prendre de les pousser vers des actions radicales, des formes d'action radicales. Et dès le début, le Parti communiste a pris le pari d'organiser ensemble les chômeurs noirs et les chômeurs blancs, ce qui était évidemment pour la période quelque chose d'extrêmement rare, dans des actions comme aller manifester devant l'équivalent de l'ANPE, ou de la sécurité sociale, et pour revendiquer des paiements plus élevés, non sans succès dans certains cas, et des fonds d'action qui impliquaient pas seulement les chômeurs, mais aussi leurs familles, leurs femmes, et donc des fonds d'action dans lesquelles les femmes noires ont joué un rôle extrêmement important, et donc qui a mené à une situation où plusieurs femmes noirs dans ces villes sont devenus des cadres, des militantes extrêmement importantes du Parti communiste.
And throughout the country, these marches would be happening. They often actually led to violence. When unemployed people would march in demonstrations, the police would attack. And the sight at this time of black and white communists together fighting back against police violence, of white people linking arms with black unemployed workers to stand up to the police. It's difficult to overstate how jarring of an image this was to kind of the image of race relations in the United States at the time. In a number of places, black and white workers died actually together on these marches at the clubs of the police. And this kind of thing won the CP incredible credibility, a huge amount of credibility in black neighborhoods especially. It led, and these kind of riots that were taking place, in which communists would fight back against the police, led the very important black sociologists, St. Clair Drake and Horace Caton, to comment with approval on the spectacle of Negroes and whites rioting together against the forces of law and order, right? A kind of a new scene in American society of black and whites together fighting against against racist oppression.
Donc ces manifestations de chômeurs étaient souvent des manifestations extrêmement violentes parce que Elles étaient souvent attaquées très agressivement par la police et donc devenaient souvent des émeutes dans lesquelles il y avait des morts. Il ne faut pas sous-estimer l'aspect symbolique extrêmement important dans cette période-là de voir ces scènes de bataille de rue entre la police d'un côté et des chômeurs et des communistes blancs et noirs ensemble, avec des morts des deux côtés, des noirs et des blancs. Et c'était des formes d'action une image extrêmement impressionnante pour la période qui a gagné beaucoup de crédibilité et de légitimité pour le Parti communiste dans les quartiers afro-américains. Jusqu'au point où deux sociologues afro-américains ont souligné l'importance de façon positive de voir ces émeutes interraciales contre les forces de l'ordre.
So the unemployed councils represent kind of the first steps that the Communist Party made to actually organizing black workers against racism, for a radical struggle against racism. The next step forward, and what was in many ways the key step for the 1930s, was the Scottsboro case. And the Scottsboro case was a case in Alabama in 1931 when nine black teenagers, all boys, so the case was called the Scottsboro Boys, were riding on a train as hobos, as very, very many people did throughout the Depression. And they got in a fight with some white hobos on the train, and when they got off, two white prostitutes accused the black men of rape. They were quickly tried in a sham trial and all sentenced to death. This kind of thing obviously happened all the time in the South. It was not an unusual occurrence. What was unusual this time was that the Communist Party decided to make a fight against this one and very quickly moved into action to take up the case and to launch a strategy of mass struggle to overturn the convictions and to free the Scottsboro Boys, which became one of the most important rallying cries for leftists and liberals of all stripes in the 1930s, free the Scottsboro Boys.
Donc le deuxième cas, c'était la lutte autour des Scottsboro Boys. Donc les Scottsboro Boys, c'était neuf jeunes afro-américains dans l'État du Alabama qui étaient dans un train, un fait divers. Il y a eu une bagarre entre ces jeunes noirs et des blancs, des hobos, des sans-abri, sans toit blanc dans ce train. À la descente de ce train, deux prostituées blanches ont accusé ces neuf jeunes garçons de viol. Et il y a eu un procès extrêmement douteux dans lequel ces garçons ont eu la peine capitale. La peine capitale a été requise contre ces garçons. Et donc c'était un cas très banal pour les États du sud des États-Unis. Sauf que dans ce cas-là, le Parti communiste a décidé de mettre cette lutte contre cette peine capitale et contre ce procès pourri au centre de son activité, avec des formes d'activité extrêmement radicales. Cette campagne est devenue un peu le symbole pour tous les gens à gauche et même des gens de centre-gauche de bonne conscience, si on veut, la grande campagne des années 30 contre le racisme, autour de laquelle le Parti communiste a réussi à fédérer beaucoup de gens.
The key to the Communist Party's strategy at this time was what they did was they reached out to the mothers of the boys, and they met with the mothers, and they argued with the mothers that this strategy was going to be the way to free the Scottsboro Boys, that trying to rely on the courts, that trying to, get a better lawyer for a good trial wasn't going to work, but there was no way that nine black boys could get a fair trial in the South in the 1930s. That was their starting point. And a lot of the mothers were very receptive to this. I think they were just amazed that all of a sudden all these like white intellectuals from New York were flying down to this very small town in Alabama to meet with them and listen to them and actually take them seriously. Here's what one of them, Janie Patterson, had to say. She said, "They tried to tell me that the ILD, which was the legal group that the Communist Party was mobilizing through, was low down whites and reds. I haven't got no schooling, but I have five senses and I know that Negroes can't win by themselves. I don't care whether they are reds, greens, or blues. They're the only ones who put up a fight to save these boys, and I am with them to the end.
Donc le Parti communiste a réussi dans ce cas-là de convaincre les mères de ces neuf garçons, certaines des mères de ces neuf garçons, que la stratégie prônée par le Parti communiste, une stratégie radicale contre cette peine, avait beaucoup plus de chances de gagner qu'une campagne légaliste. Cet argument qui était mené par plusieurs grands cadres et intellectuels du Parti communiste descendus de New York dans cette petite ville du Alabama pour essayer de convaincre ses mères a réussi à convaincre certaines d'entre elles. Donc il y a une citation d'une de ses mères qui dit que bien qu'on lui a dit que cette organisation soutenue par le Parti communiste était... C'était une organisation de blancs, de rouges, etc., elle reconnaissait que c'était la seule organisation qui était prête à les aider et qu'elle s'en foutait complètement de sa complexion, qu'elle soit rouge, verte ou bleue.
And what the party did is it took the mothers on tour across the country, put them up on stages and let them speak about what was happening to their sons. An incredibly effective strategy. So, you know, so they'd come to New York and have meetings in Harlem of thousands of people listening to, you know, the mothers talk about their children being railroaded in the South. The Scottsboro campaign developed into a massive campaign across the United States, across the world, as, you know, the CP drew on its connections with parties in other countries that put tremendous pressure on the legal system. And it took a number of years, it actually took decades in some of the cases, for the boys to be freed, but eventually they were all freed, or some of them escaped from jail, which was also a good way of doing it.
La campagne est une campagne extrêmement vigoureuse où le Parti communiste a fait une tournée nationale avec ses maires, par exemple des grands meetings à Harlem, à New York, avec des milliers de personnes, où les maires ont parlé effectivement des cas de leur fils, et ce qu'ils ont subi. C'était rapidement, c'est devenu une campagne nationale majeure et même internationale, parce que le Parti communiste a utilisé tous ses liens avec d'autres partis communistes au niveau mondial pour en faire une cause internationale et globale. C'était une campagne qui a pris beaucoup de temps pour porter ses fruits. Dans certains cas, des décennies pour libérer certains des garçons. Certains ont réussi à s'évader de prison, mais d'autres ont été libérés à terme. Mais c'est une campagne qui a mobilisé énormément de monde.
All right. So that's the Scottsboro case, which was really key to establishing the party's reputation as an anti-racist force that took the oppression of black people seriously and was willing to again put their lives on the line to combat it. I also wanted to talk about the unions, but I'm going to cut this section a little shorter just because we're running a bit long on time already. But I just want to read a quote from a black unionist who was in UAW Local 600, which was an auto workers union in Detroit and was one of the biggest union locals in the country, and one of the places where the Communist Party was at its very strongest in union work. It's one of the places that McCarthyism took the longest to dig the communists out. This is what one black worker said about his experience in Local 600, which I think just says a tremendous amount about what the party was able to do. He's talking about about going to UAW conventions, and he says, there were some hotels where black delegates to a UAW convention couldn't get in there. If a black guy was being refused admittance to a hotel or motel, that hotel was almost torn apart and would have been torn apart if they didn't give them a room. White guys was doing it for us. He goes on and he says, the local was giving dances, blacks and whites dancing together. They would give picnics. The kids were there playing together. They would have choral ensembles, all of them singing in the choir together. They had bands. They played together in the Labor Day marches. All of them competed for prizes, this kind of thing. Even though they weren't living in the same neighborhood together, they would visit each other. And these are the kinds of social activities, I think, that went on and helped elevate the brotherhood and togetherness more openly. We had black beauty queens. Nowhere in the country would you find an organization that was predominantly white, that predominantly whites were sponsoring, that would select a black woman for a beauty queen. It was unheard of. But we had it here.
Donc, le troisième aspect de l'activité du Parti communiste était dans les syndicats. Donc, là, je vais être plus bref parce que le temps court, mais je vais simplement citer un des syndicalistes noirs dans la section du syndicat des travailleurs de l'automobile à Détroit, le Local 600. Donc c'était une base communiste extrêmement forte à Détroit. C'était la base probablement la plus résistante au macartisme d'après-guerre. Et donc ce syndicaliste noir dit que, voilà, quand il y avait un congrès du syndicat, du UAW, il y avait certains hôtels où les délégués noirs n'étaient pas admis, mais dans ces cas-là, il y avait des émeutes ou des menaces d'émeutes de la part des communistes blancs s'il y avait un refus de les recevoir. Il y a eu toutes sortes d'activités de sociabilité entre les adhérents blancs et noirs du syndicat, des danses, des pique-niques, des jeux avec les enfants, des assemblées chorales, de la musique, des manifestations le jour du travail, des concours. Et donc, même si ces travailleurs n'habitaient pas dans les mêmes quartiers, parce que les quartiers restaient ségrégés, ils se rendaient visite et ils se côtoyaient. Il y avait même des concours de beauté de Miss qui ont été gagnés par des femmes noires, ce qui était complètement impensable à cette époque-là qu'une femme noire puisse gagner un concours de beauté contre des femmes blanches.
And again, in the United States at the time, this was absolutely unheard of for a majority white organization to be, sponsoring activities where blacks and whites dance together and where a majority white organization elected black beauty queens. So the tremendous amount about the success that they had in actually winning white workers to anti-racism and organizing the class as a whole. So that, that's just one kind of indication of the party's success there. The union movement as a whole in the 1930s became an incredibly important way that racism began to be broken down in the United States. As black workers began to enter the unions and as there were actually anti-racist unions, black workers began to have access to better paying jobs. The Communist Party would fight for affirmative action on the job, actually, in some places. A number of achievements. These kinds of things led W.E.B. Du Bois, the great black social theorist, to say that no other force besides the CIO, the union federation that these radical unions were in, said no other force has done as much for black advancement in the 1930s as the CIO.
Donc, à part ces aspects culturels et sociaux des syndicats, il y avait aussi la lutte syndicale elle-même, avec la création de plusieurs syndicats radicaux dans les années 30 autour de la fédération du CIO. C'était des syndicats ouverts aux travailleurs noirs et dans lesquels le Parti communiste jouait un rôle majeur. Donc c'était des syndicats dans lesquels les travailleurs noirs pouvaient adhérer et lutter pour une amélioration de leur salaire, bien sûr. C'était des syndicats aussi, dans certains cas, où le Parti communiste luttait pour le affirmative action. Bon, comment traduire ça en français?
Discrimination positive.
Ouais, discrimination positive, peut-être. Jouer un rôle très important dans ce sens-là. W.B. Du Bois, le grand intellectuel afro-américain, a dit que, à part la grande fédération du CIO, aucune autre organisation, à part le Parti communiste, a joué un rôle aussi important dans la lutte antiraciste que le Parti communiste.
So, unfortunately, the Communist Party in the next decade after the 1930s largely falls apart as a result of anti-communist campaign in the U.S. society against it, and its own Stalinism that actually at some points really compromised its ability to fight racism at some key moments. But even though the Communist Party unfortunately too quickly disappeared from the scene, I think there's some lessons that it has for radicals today that are looking to fight racism. In the U.S. today, I'll speak about the U.S. That's what I know. In the U.S. today, you know, racism looks very different from the Jim Crow era. Now, instead of primarily, you know, a system of exploitation in which blacks are kept as workers working at the point of a gun for very low wages, mass unemployment is the condition in cities in the United States, especially for black youth. You know, unemployment rates over 50% in a lot of cities. So the kind of structure of oppression has changed in some ways, and now the oppression of African Americans is in key ways reproduced through the market alone. The workings of the market are sufficient to reproduce black oppression as capitalism kind of creates stratifications for jobs and things like that, and African Americans are isolated in inner cities and find it very hard to compete in a number of labor markets.
Donc, le Parti communiste, dans la décennie qui a suivi, les années 40, s'est désintégré pour plusieurs raisons. Une des raisons était bien sûr la campagne anticommuniste extrêmement féroce du macartisme. Une autre raison était le stalinisme extrêmement profond du Parti communiste qui était un handicap important même dans la lutte contre le racisme à certains points, à certains moments clés sur lesquels on peut revenir. Mais on peut quand même, malgré cette désintégration, cette disparition quasi totale du Parti communiste, en tirer quelques leçons pour la période actuelle. Donc je vais me concentrer sur la question de la lutte antiraciste aux États-Unis dans la période actuelle, dans la période contemporaine. Bien sûr, le racisme a changé de logique. C'est-à-dire que le racisme n'est plus le racisme de Jim Crow des années des États du Sud, qui était un racisme appuyé par la force, par la terreur, par la peur. C'est un racisme qui se manifeste par exemple par un chômage de masse parmi la population noire, et un racisme qu'on peut dire qui est même reproduite automatiquement par les mécanismes du marché sans la nécessité que ça soit appuyé par la coercition violente.
At the same time, the organizations of working class solidarity in American life have decayed and been destroyed to such a point that strategies for working class people, for white workers, for example, that are based on taking care of yourself, you know, taking care of yourself and your family, that aren't solidaristic, that aren't looking to take collective action against the employers. In the absence of working class institutions that make that kind of action possible, those kinds of strategies have a much greater appeal. And thus, when politicians say that, you know, the reason that you're poor is all the black people are taking welfare, something like that, that kind of scapegoating has much more appeal in that atmosphere where the opportunities for collective action, where the institutions like the Communist Party, like the unions in the CIO in the 1930s aren't there. Those kind of scapegoating appeal of propaganda campaigns really have much more appeal and can find, you know, more nourishment in society. What that means, I think, is that I think that fact and that kind of short description, a very condensed description of racism in the United States today, yields kind of two strategic principles for people who are looking to challenge racism today. One is that the lesson of the Communist Party and the negative example of the Socialist Party is that for any left worth the name, the orientation has to be on attacking racism wherever it's found, right? That has to be the starting point for any leftist politics. If that's not the starting point, you get nowhere. The additional point that I think the lesson of the CP gives is that class-wide organizations of the kind that build solidaristic institutions help deprive racism of the soil in which it grows, right? They help make that kind of scapegoating appeal much less, much less effective. And so at the same time as it's the left's duty to attack racism, you know, directly wherever it's found, those kind of actions, I think, are also necessary for attacking racism at the root.
Donc, en parallèle avec ce développement d'un racisme, disons, on pourrait dire aveugle du marché du travail, il y a aussi, bien sûr, le déclin des institutions de la classe ouvrière américaine à partir de la fin des années 70, des syndicats, des partis politiques de gauche, là où elles existaient. Et donc, pour les ouvriers, les travailleurs blancs, la désintégration de ces institutions crée des conditions dans lesquelles les stratégies de survie individualistes, où on met sa famille ou soi-même en premier, et pas les questions de solidarité, d'action collective, étaient bien sûr des formes d'action privilégiées de plus en plus. Donc, les deux aspects, le chômage de masse, le racisme aveugle du marché du travail et le développement de stratégies individualistes de beaucoup de travailleurs blancs. Donc, une des leçons qu'on peut tirer de cette expérience positive du Parti communiste et négative du Parti socialiste américain sont que deux choses essentiellement. D'abord, que attaquer le racisme, se confronter au racisme est une question primordiale. Là où elle existe, il faut l'attaquer. Donc, on ne peut pas l'éviter. C'est une question essentielle. Et deuxièmement, que la création d'institutions de classe large, comme le syndicalisme de lutte de classe des années 30 ou les partis de politique de gauche comme le Parti communiste, sapent les conditions, disons, du développement du racisme et donc sont le complément de cette lutte contre le racisme. Donc ces deux éléments vont ensemble.
And that first point in particular, the necessity of attacking racism wherever it's found, also means that it's necessary for the left to support whatever fights against racism actually exist in society at a given moment. No matter, you know, on what basis they're organized, who's organizing them, if it's a black nationalist group organizing only black people against racism, whatever form struggles against racism take, that is it's the left's duty to support them, you know, again, in whatever form they take. There's arguments to be made in all of these struggles, right? So, like, you know, obviously not everyone who fights against racism takes the kind of class perspective that I've laid out here. But, you know, regardless of whether people have a class perspective in the fight against racism, if the left isn't supporting those fights, it has no hope whatsoever of winning people to that perspective. That has to be the starting point. Wherever there's a fight against racism, the left supports it.
Donc, ce qui s'ensuit du premier point de la lutte contre le racisme comme élément primordial, c'est que la gauche radicale doit soutenir toutes les luttes contre le racisme dans toutes ses formes. C'est-à-dire d'un point de vue, doit les soutenir de façon inconditionnelle et son soutien ne doit pas dépendre de la forme que cette forme prenne cette lutte prenne une forme spécifique, c'est-à-dire une lutte de classe ou une lutte de gauche, etc., contre le racisme. Par exemple, il y a des luttes contre le racisme qui sont menées aux États-Unis par des nationalistes noirs, qui ne prennent pas du tout un point de vue de classe, mais ce sont les luttes qui existent, donc il faut les soutenir, et la gauche radicale, qui n'est incapable de soutenir ces luttes-là, tout en critiquant, tout en faisant discutant, a aucune chance de construire quoi que ce soit aux États-Unis.
All right, and I'll just end with a quote from a Communist Party publication in the 1930s that I think sums up what the left's attitude on race should be, the most elemental, foundational starting point. This publication said, it is the duty of white workers to jump at the throat of any person who persecutes a Negro. That's the image that should dominate how the left approaches racism. It is the duty of white workers to jump at the throat of racism. That's the starting point for any leftist approach to racism.
Donc, c'est... On peut résumer cela par une formule d'une des publications du Parti communiste qui disait que c'est le devoir de l'ouvrier, du travailleur blanc, de sauter à la gorge de toute personne qui frappe un nègre au visage, de toute personne qui persécute un nègre. C'est le devoir du travailleur blanc de lui sauter à la gorge.